Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 15 février avec vous Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission, le journal, les sports, le Zap France, le carnet de campagne des élections fédérales en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce mardi 15 février, la grève des infirmières ce mardi en Nouvelle-Galles du Sud pour protester contre le manque de personnel dans les hôpitaux publics. Le secrétaire général des Nations Unies s'est entretenu avec les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères. Après le cyclone Batsirai, c'est une tempête tropicale modérée du Mako qui se dirige vers Madagascar et qui devrait toucher la côte nord-est de la Grande Île ce mardi soir. Les infirmières et les midwives de toute la Nouvelle-Galles du Sud quittent leur travail et se rassemblent devant le Parlement ce mardi 15 février, exigeant que le chef de Nouvelle-Galles du Sud résolve la crise de personnel dans les hôpitaux publics. Pendant les grèves, les services vitaux seront maintenus dans tous les hôpitaux et services de santé publique. Des milliers de membres de l'Association des infirmières de la Nouvelle-Galles du Sud participent à plus de 20 rassemblements échelonnés tout au long de la journée. Certaines infirmières ont quitté le travail depuis 7 heures ce matin pour au moins 24 heures. Écoutez la réaction de cette infirmière.
We find that discriminatory. We don't want to have a disparity in the nursing skills. They're all the same patient. They deserve the best quality of care. And we are advocating that the government should do the right thing by giving us the mandate of 1-4. All the states, regardless of wherever you work, we want 1-4 as the parity in all the nursing ratios. And that's what we're asking for.
Le Premier ministre australien Scott Morrison a dénoncé l'agression russe à la frontière ukrainienne alors que le personnel diplomatique australien est en train de quitter l'ambassade à Kiev. On estime que 198 Australiens en Ukraine ont demandé une assistance consulaire alors que les États-Unis avertissent qu'une invasion russe de l'ancien pays soviétique est imminente. Alors que les tensions dans la région s'intensifient, Scott Morrison a déclaré qu'il était temps pour l'Australie de tenir tête au pays qui intimide l'Ukraine.
We denounce Russia's bullying, their coercion, their intimidation and their threats of violence against Ukraine, Mr. Speaker. And we will always take steps to do that. And Mr. Speaker, we have taken those steps with our like-minded partners. But I know, Mr. Speaker, that the Chinese government has not stood with the rest of the world in denouncing the actions of Russia, Mr. Speaker, and they should do so.
Le gouvernement russe continue de nier toute intention d'envahir l'Ukraine, mais craint que les liens de l'Ukraine avec l'alliance de l'OTAN n'en fassent une rampe de lancement pour les missiles de l'OTAN visant la Russie. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré qu'il n'y avait pas d'alternative à la diplomatie.
I think what the Secretary General expressed to both foreign ministers was his serious concern over the heightened tensions around Ukraine. He welcomed the ongoing diplomatic discussions to diffuse those tensions and underlined yet again the fact that there is no alternative to diplomacy.
La Russie a signalé qu'elle était prête à continuer à discuter avec l'Occident des problèmes de sécurité qui, selon elle, ont conduit à la crise actuelle en Ukraine. Malgré les avertissements de la communauté internationale, selon lesquels les troupes russes pourraient se déplacer en Ukraine à tout moment, le président russe Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont suggéré le contraire. Depuis Moscou, le reportage de Anissa El-Jabri pour RFI.
C'est un échange soigneusement mis en scène, un dialogue rendu public entre Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a émis cette analyse signant une ouverture diplomatique.
Nous avons déjà dit plus d'une fois, vous l'avez dit, d'autres représentants de la Fédération de Russie l'ont dit, que nous mettons en garde contre des discussions sans fin sur des questions qui doivent être résolues aujourd'hui. Mais je dois dire qu'il y a toujours une chance, qu'il me semble que nos possibilités sont loin d'être épuisées. Je suggère donc de continuer à développer le dialogue.
Autre signal dans la foulée, l'annonce du ministre de la Défense de la fin de certains exercices militaires. Reste que Vladimir Poutine l'a souvent montré, tout particulièrement dans cette crise. Il aime souffler le chaud et le froid et par-dessus tout, entretenir le flou sur ses intentions.
En Australie, une commission des estimations du Sénat a appris qu'aucune enquête n'avait pas été menée sur la manière dont les messages SMS privé de Scott Morrison avec le président français Emmanuel Macron avait été divulgué à un journal. Interrogé par la sénatrice travailliste Katie Gallagher, le ministre des Finances Simon Birmingham et le personnel du département du Premier ministre ont confirmé que ni la police fédérale australienne ni aucun département gouvernemental n'avait enquêté sur les fuites. La sénatrice Gallagher suggère que le Premier ministre les a peut-être divulguées lui-même.
If it wasn't the Prime Minister, there would be a police investigation, the security agencies would all be all over it. PM&C would be up in arms and working out, you know, reviews and how to manage this breach of the Prime Minister's privacy and maintaining international relationships, but nobody seems to be the slightest bit bothered. What is the other explanation other than the Prime Minister leaked it because he was angry and he felt hurt by what President Macron had said?
La sénatrice travailliste Kimberley Kitching se sert du privilège parlementaire pour alléguer qu'un riche homme d'affaires sino-australien et donateur politique est à l'origine d'une tentative de soutenir des candidats politiques lors des prochaines élections. Les affirmations sont intervenues lors d'une audience sur les estimations du Sénat, au cours de laquelle Mme Kitching a posé la question au patron de l'ASIO, Mike Burgess, l'ASIO, le service de renseignement australien. Mike Burgess a déclaré au comité qu'il ne discuterait pas de la question publiquement.
Senator, as I said before, I will not comment on speculation of who is and who isn't targets in general or in specifically as you're asking me there. I think it's unfair that you ask me that question in public.
Le gouvernement fédéral prend des mesures pour expulser rapidement les criminels nés à l'étranger reconnus coupables d'infractions sexuelles violentes ou graves. La coalition prévoit de présenter une législation au Parlement pour combler une lacune dans les lois sur les tests de personnalité en matière de migration. L'amendement proposé permettra au gouvernement de refuser ou d'annuler les visas des non-ressortissants qui ont été reconnus coupables et condamnés à au moins 2 ans de prison pour des infractions graves, qui ont purgé moins de 12 mois en prison et qui sont considérés comme un risque pour la communauté. Le ministre fédéral de l'immigration, Alex Hawke, a déclaré au Seven Network que le gouvernement avait besoin de plus de pouvoir pour expulser plus de personnes.
We're the first government that's deported 10,000 serious criminals. We've cancelled their visas. We've got them offshore, overseas, never to come back. And we need more power to do more of it because there are several laws that are inadequate to capture serious sexual and violent offending.
La première conférence nationale australienne sur la maltraitance des personnes âgées. Cette conférence vient après la publication d'une recherche par The Australian Institute of Family Studies montrant que 15%, soit près d'un Australien âgé sur 6, subissent une forme de maltraitance des personnes âgées. Le commissaire au vieillissement et au handicap en Nouvelle-Galles du Sud, Robert Fitzgerald, est l'un des participants de cette conférence nationale. Il a déclaré sur SBS News que la maltraitance des personnes âgées est le plus souvent perpétrée par des membres de leur famille.
This is all about family relationships that have gone wrong. And of course it manifests itself in psychological abuse, financial abuse, sometimes physical abuse as well. And that's a really big learning because it's quite different from the abuse in say aged care facilities or in residential services that we hear about over and over again.
Et si vous avez besoin d'aide, contactez le service Elder Abuse au 1300 651 192. Les convois de la liberté sont présents à Bruxelles maintenant, malgré l'interdiction de manifester dans la capitale belge où se trouvent les institutions européennes. Beaucoup de gens sont venus à pied. Reportage sur place de Muriel Paradon pour RFI.
Un hélicoptère survole le cortège sous une pluie battante. Sur la route, quelques centaines de manifestants repoussés par des policiers qui les empêchent d'approcher des bâtiments de la Commission européenne. Dans le défilé, une majorité de Français, comme Lilian, un peu excédé par ce dispositif musclé.
Eux, ils nous font même pas peur. Je veux dire, nous, on n'est pas là, on n'est pas agressifs. Je veux dire, on n'est pas des punks, hein. On n'est pas là pour casser ni pour faire les black blocs. Donc nous, on est là parce qu'on revendique aussi le droit d'être libre. Et ça fait partie quand même de la démocratie, d'être libre, je crois. Et de manifester en même temps, évidemment.
Ils manifestent contre les règles sanitaires qu'on leur impose, mais refusent la vaccination. Certains frôlent avec des thèses complotistes et se disent rejetés. Adam est heureux de trouver dans ce convoi européen des personnes qui partagent les mêmes idées que lui.
Moi, ça fait 2 ans que je ne peux pas parler avec personne d'aucun sujet. Et là, en 2 minutes, tous les gens que j'ai rencontrés depuis 4 jours, on peut discuter de tous les sujets sans tabou, sans avoir peur de est-ce que je vais être jugé, pas jugé. Les gens, j'ai retrouvé une humanité, on a l'impression que c'est la famille, quoi. Et là, on est tous repartis pour des années de résistance, parce que c'est ça, en fait.
Le mouvement, assez hétéroclite et imprévisible, pourrait se poursuivre dans les prochaines semaines.
Le gouvernement britannique a annoncé hier la création de 2 ports francs en Écosse et il devrait ouvrir en 2023. Précision de Emeline Vin pour RFI.
Le gouvernement britannique promet plus de 60 millions d'euros pour la création de 2 ports francs en Écosse. Les ports francs, ce sont ces zones situées à proximité d'un aéroport, d'un hub routier ou d'un port naval qui bénéficient d'une fiscalité avantageuse et d'incitation à l'investissement. Leur création a été rendue possible par la sortie britannique de l'Union européenne. 8 sont déjà prévus en Angleterre. Le gouvernement écossais s'opposait jusqu'ici à la création de ces 2 ports francs considérés comme des outils d'évasion fiscale et de moins-disance sociale. Après plusieurs mois de lutte, Holyrood a obtenu des garanties. Il s'agira de zones à basse émission avec un objectif de net zéro en 2045, des bénéfices tangibles pour les communautés locales et des protections du droit du travail. Les Verts, pourtant partenaires de la coalition, ont dénoncé un éco-blanchiment ou greenwashing. Les zones entrent dans la stratégie gouvernementale de nivellement par le haut pour revitaliser certaines zones excentrées. Les appels d'offres seront lancés le mois prochain et les 2 ports francs écossais devraient ouvrir en 2023.
À Madagascar, après les dévastations du cyclone Batsirai, il y a une dizaine de jours, c'est l'arrivée maintenant ce mardi d'une tempête tropicale modérée, Dumako, qui touchera la côte nord-est de la Grande Île ce soir. À Manzana, on continue à se relever. 90% des constructions sont dévastées. Reportage sur place de Sarah Teto pour RFI.
Le toit de sa maison s'est envolé. L'ensemble de ses biens a été trempé par les trompes d'eau du cyclone. Pourtant, Dr Rina ne se plaint pas. En face de sa maison, l'hôpital public qu'il dirige a été dévasté. C'est ça qui l'affecte le plus.
Tous les tôles sont partis. L'hôpital est ravagé à 90%. Le quartier du bloc opératoire à 100%. le service maternité à 100%.
20 patients étaient hospitalisés à l'hôpital B durant la nuit du cyclone. Ils ont depuis été transférés à la clinique Sainte-Anne, un établissement catholique privé flambant neuf en bordure de la ville et qui était jusqu'à présent en attente d'une autorisation pour ouvrir. L'entente entre Dr Rinar Akoutoumamouns et Père Jean-Yves, le fondateur de la clinique, est excellente. Toutefois, tous deux appellent de leur vœu la reconstruction de l'hôpital public.
Nous souhaitons qu'on réhabilite rapidement l'hôpital pour le bien des malades qui viennent se soigner ici. Même pour les déplacements des personnels, ici c'est plus accessible, plus central qu'à l'hôpital Sainte-Anne. Si on répare 3 ou 4 chambres et on redémarre l'électricité, vaut mieux on travaille ici.
10 jours après le passage dévastateur de Batsirai, les couloirs sont encore inondés. Les poutres du plafond jonchent le sol. Plusieurs organisations ont fait part de leur intention d'aider à la réhabilitation de l'hôpital, mais aucun travaux n'ont encore commencé.
Et tout à l'heure dans l'émission, nous parlerons à la directrice adjointe de CARE Madagascar sur les dévastations après le passage du cyclone Batsirai. On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 38 degrés, Adélaïde 30, Melbourne 24, Hobart 22, Canberra 31, Sydney 28, Brisbane 27, Cairns 30, Darwin 35 et à Alice Springs, maximal de 36 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 15 février, la grève des infirmières ce mardi en Nouvelle-Galles du Sud pour protester contre le manque de personnel dans les hôpitaux publics. Le secrétaire général des Nations Unies s'est entretenu avec les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord les JO de Pékin, le biathlon, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, champion olympique de danse sur glace. La correspondance de Christophe Diremzian sur place pour RFI.
Les vice-champions de 2018 ont remporté il y a quelques heures le titre olympique à Pékin à l'issue du programme libre. Un sacre déjà largement acquis grâce à leur performance du programme court. Mais malgré l'avance acquise à ce moment-là, notamment sur les Russes Sinitsina et Katsalapov et les Américains Hubel et Donohue qui les accompagnent sur le podium, Guillaume Cizeron l'admet, la pression était énorme à l'entrée sur la patinoire.
Serein, c'est un bien grand mot, je crois, mais je pense que j'ai jamais été aussi stressé de ma vie. Mais je pense que il y avait une certaine sérénité dans le fait qu'on sait qu'on peut faire confiance en notre entraînement, qu'on peut se faire confiance sur la glace. Donc, je veux dire, il y avait tout ce bagage, il y a tout cet entraînement, ces 17, 18 années de partenariat ensemble, de moments sur la glace. Donc, on a tout ce bagage sur lequel se reposer, mais c'est sûr que c'était quand même vraiment très très stressant.
Guillaume Cizeron au micro de France Télévisions, le danseur sur glace qui, avec sa partenaire Gabriela Papadakis, s'adjuge également le record du monde avec 226,98 points.
Et puis Quentin Fillon-Maillet a gagné l'or dimanche. Marie-Amélie Motte et Christophe Diremzian pour
RFI.
L'autre est en train de rejoindre les plus grands biathlètes de l'histoire en décrochant une 4e médaille et la plus belle en autant d'épreuves disputées. C'est le Français Quentin Fillon-Maillet, vainqueur de la poursuite aujourd'hui. Et on en parle tout de suite avec notre envoyé spécial Christophe Diremzian. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Marie-Émilie.
Pour Quentin Fillon-Maillet, Christophe, c'est une victoire obtenue de main de maître.
Oui, on peut dire la main d'un homme qui n'a pas tremblé pour réussir un 20 sur 20 au tir, un des éléments de la réussite du Jurassien de 29 ans, parti avec 25 secondes de retard sur son principal rival, le Norvégien Johannes Bø, pour respecter les écarts à l'arrivée du classement du sprint. Bø a été un temps plus rapide sur les skis que son adversaire, mais ses chances de titre se sont envolées lorsqu'il a raté 3 fois la cible lors de sa première séance de tir debout. À l'arrivée, c'est même son frère Tarier qui sera le dauphin de Quentin Fillon-Maillet, qui devient, avec ce 2e sacre après celui de l'individuel, le premier athlète français de l'histoire des JO d'hiver à empocher 4 médailles lors d'une même édition. Et ça le rend d'autant plus fier que la neige et le vent sur le site de Zhangjiakou ne l'ont pas vraiment aidé.
Les conditions étaient vraiment compliquées, mais bon, avec une médaille d'or au final, c'était 20 degrés avec le grand soleil au bord de la plage. C'est juste incroyable de continuer sur cette lancée. Je suis tellement fier. La course a été vraiment exténuante. Ça a été, je pense, la course la plus dure de la saison jusqu'à maintenant. J'ai donné le meilleur de moi-même. Médaille d'or aujourd'hui, c'était bien au-delà de mes rêves. Quand j'étais petit, je me disais, j'ai envie de créer mon histoire, d'écrire l'histoire du biathlon. Et c'est faux ce que je fais aujourd'hui. 4 médailles en 4 courses, c'est tellement fort, c'est tellement beau.
Et ça pourrait être encore plus beau dans les jours à venir pour celui qui domine par ailleurs le classement de la Coupe du Monde, car il lui reste encore 2 courses à disputer, le relais masculin et le départ en ligne. Et quoi qu'il arrive, il ne dépassera pas le total de récompenses de Martin Fourcade, cette récompense en 3 jeux d'hiver, mais il pourrait égaler, voire dépasser les 3 titres que le Catalan avait décrochés à Pyeongchang en 2018.
Et on passe maintenant au foot avec le Real de Madrid qui jouera contre le Paris Saint-Germain ce mardi en Ligue des Champions. Pierre Chaperon et Marie-Amélie Motte pour RFI.
Pierre, pas de but pour le Real hier donc et un 6e match nul en championnat. On est inquiet en Espagne avant ce rendez-vous parisien ?
On est partagé ici. Hein. D'un côté, la première période médiocre, complètement mangée par Villarreal, où c'était difficile pour le Real de sortir la balle. Une première partie qui a pas mal inquiété d'ailleurs l'entraîneur Carlo Ancelotti. Une première partie marquée par ce poteau trouvé par l'ailier néerlandais Danjuma, natif de Lagos au Nigeria. De l'autre, en seconde période, une équipe qui joue plus haut, qui attaque le ballon, qui a les meilleures occasions. Et c'est cette deuxième partie qui a le plus emballé la presse, avec plusieurs occasions, 2 transversales de Gareth Bale et Luka Jovic, ce qui explique par exemple ce matin que AS Barça une d'un titre prêt pour Paris. Mais encore une fois, cette saison, on a eu un Madrid à 2 visages. Écoutez le milieu de terrain brésilien Casemiro, qui revient en forme d'ailleurs. Il résume le sentiment général, la seconde période a été meilleure.
Je crois que surtout après la seconde mi-temps, le résultat aurait peut-être été légèrement différent. Mais bon, c'est le football, il faut marquer des buts, nous n'avons pas été efficaces, et donc on ne ramène qu'un point à la maison. On a changé en seconde période, c'est un peu grâce à l'entraîneur. Il voit le jeu différemment, il nous a orientés, il nous a parlé. Mais bon, je crois qu'il faut rester sur cette deuxième mi-temps, parce que ce qui nous arrive, c'est le plus important et le plus difficile. Et nous devons jouer comme nous avons joué sur la deuxième partie du match. Nous travaillons bien, nous nous reposons bien, évidemment, nous voulons tout gagner.
Le Real en championnat qui ne compte plus que 4 points d'avance sur Séville, vainqueur 2-0 de Elche. Une stat, Marie-Amélie, en l'absence de Benzema, le Real a joué 3 matchs, 44 tirs, 1 but. Ça aussi, on en parle pas mal en Espagne aujourd'hui.
Karim Benzema, blessé pour ce mardi. À nouveau, Marie-Amélie Motte pour RFI.
Et justement, Karim Benzema est absent depuis le 23 janvier. Il est blessé à l'ischio-jambier gauche. Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'international français ?
Alors aujourd'hui, il a participé à une partie de l'entraînement collectif et après, il s'est contenté d'un footing léger. Il est dans la liste des convoqués pour le match de mardi. Le Real, Carlo Ancelotti en tête, prendra sa décision finale demain lors du dernier entraînement. Le joueur et le club veulent qu'il soit sur la pelouse, même s'il n'est qu'à 50-60% de ses capacités.
Ouais, et l'autre incertitude concerne Ferland Mendy, qui lui aussi est convoqué pour le match de mardi.
Oui, alors lui, il a fait l'entraînement complet ce matin, blessé aux adducteurs depuis le 31 janvier. Ancelotti, vendredi, a dit qu'il serait là. C'est une bonne nouvelle parce que Marcelo, c'est pas forcément la sécurité. Encore bien malmené hier, notamment par l'ailier nigérian Samuel Chukwuese. Mendy devrait apporter un tout petit peu plus de sécurité dans ce secteur où il aura face à lui quand même de très gros clients. Dans les deux cas, c'est quand même des blessures qui sont sujettes à rechute, donc à voir si le physique tiendra mardi au parc.
Et on passe maintenant en Angleterre, le championnat, la 24e journée, les matchs du week-end. Bilan avec Marie-Amélie Mott et Philippe Auclair pour RFI.
Oui, avec cette victoire 1-0, Liverpool a conforté sa place de dauphin. 7 points d'avance sur Chelsea, 11 sur West Ham qui est quatrième. Philippe, la bataille s'annonce intense pour cette quatrième place, synonyme de Ligue des Champions. West Ham, United, Arsenal, Wolverhampton et Tottenham peuvent tous y prétendre. Et ce week-end, il valait mieux ne pas jouer pour éviter de perdre des points dans cette course à l'Europe.
Oui, Marie, et la danse a commencé en l'occurrence avec Manchester United. Bon, qui était face, c'est vrai, à une équipe de Southampton qui marche très fort en ce moment, puisqu'ils ont fait match nul contre Manchester City, ils ont battu Tottenham à Tottenham. Mais après avoir vu Manchester United ouvrir la marque, on pouvait s'imaginer que cette fois, ça serait bon. Eh bien non, une fois de plus, ça n'est pas la première fois sous Ralf Rangnick. Leur adversaire est parvenu à remonter au score, et pas du tout contre le cours du jeu. Du coup, Manchester United a perdu 2 points, bêtement, devant son public, une fois de plus. Tottenham, ça n'était pas mieux. En fait, c'était pire. C'était pire en l'occurrence. Et puis, West Ham a conclu le bal, et ça aurait pu être encore pire pour West Ham, puisque c'est seulement dans le temps additionnel qu'une fois de plus Leicester qui a craqué, Leicester qui menait 2-1 au moment où on entre dans ce temps additionnel, et par miracle un but d'ailleurs du bras, en l'occurrence de Dawson, dans le temps additionnel, permet à West Ham de revenir à la hauteur de Leicester. Et du coup, en fait, oui, les clubs qui s'en tirent le mieux, mis à part les Wolves bien évidemment vainqueurs à Tottenham, c'est Arsenal qui n'a pas joué. Et Arsenal, regardez Marie, le nombre de matchs qu'ils ont joué, 22 contre 25 pour West Ham, 24 pour Manchester United, et bon, ils sont à égalité de match avec Tottenham. Mais en l'occurrence, donc, ne pas jouer, en l'occurrence, a bénéficié à Arsenal, qui devait jouer bien évidemment ce week-end contre Chelsea, mais Chelsea, comme vous le savez, avait d'autres choses en tête, puisqu'ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs à Abu Dhabi contre Palmeiras hier. Et d'après certains statisticiens qui se sont penchés en détail sur le parcours des Gunners jusqu'à présent et des matchs qu'ils ont à venir, apparemment, selon ces statisticiens, Arsenal a maintenant un peu plus de 50% de chance de terminer dans le top 4.
Un petit mot quand même sur le leader de cette première ligue, leader intouchable, Manchester City, qui a gagné 4-0 hier contre Norwich. Bon, tout va bien du côté des Citizens.
Et tout va bien du côté de Raheem Sterling également, puisqu'il a loupé un penalty, mais il a marqué 3 buts pour se consoler. Donc, absolument aucun problème. Victoire 4-0 sur le premier relégable Norwich City.
Le rugby, le tournoi des 6 nations avec la victoire des Bleus contre l'Irlande, 30-24. Dans les autres matchs, le Pays de Galles a battu l'Écosse 20-17. L'Angleterre a écrasé l'Italie 33-0. On passe au tennis avec la finale de Rotterdam qui a été remportée dimanche par le Canadien Félix Auger-Aliassim qui a battu le Grec Stefanos Tsitsipas. Et la finale des dames à Saint-Pétersbourg avec la victoire de l'Estonienne Kontaveit contre la Grecque Sakkari. Voilà pour le journal des sports de ce mardi. Et maintenant, on vous propose ce reportage sur la prochaine élection fédérale de 2022 en Australie. La campagne est-elle déjà lancée ? Pour ce premier épisode, nous revenons sur l'épisode de 60 Minutes consacré à Scott Morrison et à sa famille, en particulier sa femme, Jenny, que l'émission a beaucoup mise en avant. Reportage de notre collègue Grégory Pless.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique à travers laquelle nous allons essayer de vous raconter la campagne électorale pour les prochaines élections fédérales en Australie. Je vous rappelle qu'à ce stade, on ne sait toujours pas quand Cette élection aura lieu, si ce n'est qu'au plus tard, elle se tiendra le 21 mai prochain. En revanche, la campagne, elle, a déjà bel et bien commencé. Et pour Scott Morrison, en chute libre dans les sondages depuis quelques semaines, l'objectif est clair, reconquérir l'opinion publique. Pour y parvenir, il a ouvert récemment les portes de Kirribilli, la résidence du Premier ministre à Sydney, aux caméras de l'émission 60 Minutes sur la chaîne 9. Il a cherché ainsi à montrer qu'en dehors des débats au Parlement et des conférences de presse, il est aussi un père de famille ordinaire. Dans cette émission diffusée dimanche soir, il a d'ailleurs parlé très peu de politique. On l'a en revanche vu au fourneau, en train de préparer un plat au curry. Il a aussi raconté sa rencontre avec sa femme sur les bancs de l'église pentecôtiste qu'ils fréquentent tous les deux depuis l'adolescence, ou encore joué du ukulélé pour ses deux filles. Mais au cours de ce reportage, c'est en fait moins l'homme qui s'est dévoilé que la femme. Pas n'importe quelle femme, sa femme, Jenny Morrison. C'est d'ailleurs à elle que le présentateur de l'émission, Karl Stefanovitch, a posé les questions les plus difficiles. Et c'est elle aussi qui s'est excusée pour ses vacances passées à Hawaï alors que l'Australie était frappée par les feux de forêt les plus dévastateurs de son histoire il y a 2 ans.
I am more than sorry for if we're disappointed. And not if we did disappoint. Did we make the right decision? I thought I was making the right decision for my kids. I obviously was wrong. I wish that had never happened.
Scott Morrison, qui en tant que Premier ministre en exercice est le seul à qui cette escapade en temps de crise était reprochée, n'a lui en revanche jamais présenté d'excuses. Mais Jenny Morrison défend son mari coûte que coûte dans cette émission. Elle assure qu'il travaille inlassablement et elle va même jusqu'à dire qu'il est marié à son travail. Et même si elle est habituée à la dureté du monde politique, elle ne supporte pas qu'on attaque son mari, comme cela a été le cas récemment lors de sa prise de parole au National Press Club. Cette conférence de presse qui devait marquer sa rentrée politique, mais aussi le début de sa campagne de réélection, a été gâchée par une révélation faite par un journaliste lors de la séance de questions-réponses. Ce journaliste détenait la copie d'un SMS échangé entre Gladys Berejiklian, qui jusqu'à récemment dirigeait la Nouvelle-Galles du Sud, et un membre actif du gouvernement Morrison, qui dans ce SMS traite le Premier ministre de psychopathe. Un coup bas qu'a eu beaucoup de mal à digérer Jenny Morrison.
I just thought it was such a poor question, with such bad intent, that those people just have no idea how it would affect my family, that I have grown daughters that are going to high school.
À en croire la femme du Premier ministre donc, il ne faudrait pas critiquer les politiciens ayant des enfants scolarisés. Il faudrait aussi être poli en toutes circonstances, même quand on a été victime de viol dans son adolescence et qu'on rencontre un homme dont on estime qu'il ne prend pas au sérieux les causes qu'on défend. C'est ce qu'elle a reproché dans cette émission à Grace Tame, désignée australienne de l'année en 2021 pour le combat qu'elle mène en défense des victimes d'agressions sexuelles. Cette dernière a refusé de sourire lorsqu'elle a dû poser il y a quelques jours aux côtés de Scott Morrison à Canberra.
I respect people that like want to change things, stand up for their beliefs and are strong, but I still think there's manners and respect.
Pas sûr que ces excuses un peu tardives concernant leurs vacances hawaïennes en plein désastre, pas sûr non plus que se servir de leurs enfants comme bouclier face aux critiques ou que reprocher à une victime de viol d'être mal poli fasse gagner beaucoup de points à Scott Morrison dans les sondages, mais ce dernier remettra sans doute son avenir électoral entre les mains de Dieu, puisqu'apparemment c'est aussi ce qu'il fait depuis le début de la pandémie.
I've worn out the carpet on the side of my bed here, particularly down in Canberra, where I spent most of the pandemic, on my knees, praying and praying.
C'est toujours surprenant d'entendre le chef du gouvernement d'un pays laïque parler de sa foi. C'est même presque inquiétant de savoir qu'il prie aussi pour voir un problème s'effacer plutôt que d'utiliser les pouvoirs relevant de sa fonction pour le régler.
Le ZAP France, nous revenons aujourd'hui sur le grand meeting qu'a tenu dimanche 13 février au Zénith à Paris Valérie Pécresse, candidate de la droite, candidate du parti Les Républicains à l'élection présidentielle d'avril prochain. Le ZAP France avec des extraits de France Télévisions, TV5 Monde et RTL.
Valérie Pécresse, ça la relance ou pas? A-t-elle répondu aux doutes avec ce grand meeting du jour? Plus de 6000 personnes au Zénith et un discours décrypté ce soir.
Premier meeting crucial pour Valérie Pécresse. La candidate des Républicains s'est exprimée devant plus de 7000 personnes réunies cet après-midi au Zénith de Paris. Aura-t-elle réussi à donner un nouvel élan à sa campagne?
Le point ce soir avec Valérie Astruc, Julien Denny et Benjamin Poulain.
Ce meeting devait lui permettre de fendre l'armure. Dans cette campagne, Valérie Pécresse se présente comme la femme à abattre qui concentre toutes les attaques. Avec une gestuelle un peu appuyée, face à plus de 6000 militants, elle tente de convaincre.
Je suis cette femme française indomptable et je le dis aujourd'hui, rien ne m'arrêtera.
Donner un nouveau souffle à sa campagne, c'est l'objectif de la candidate des Républicains qui a vécu une semaine difficile, marquée par des défections au sein même de son propre camp. Julien Nenny et Benjamin Poulain.
À son entrée dans l'arène du Zénith, Valérie Pécresse le sait. Pour relancer une campagne à l'arrêt, elle doit prononcer ce que ses proches appellent le discours de sa vie. Devant 7000 militants et tous les ténors de son camp, premier enjeu, s'adresser aux électeurs d'Éric Zemmour, qui menace de la doubler dans les sondages.
Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement.
Grand remplacement, totem d'Éric Zemmour.
Bonjour Olivier Faure. Pour son premier grand meeting de campagne hier, Valérie Pécresse a repris une expression qui était utilisée par Éric Zemmour. Il n'y a pas, dit-elle, de fatalité au grand remplacement. Quelle est votre réaction?
La sidération de voir une candidate qui se dit républicaine reprendre les mots de l'extrême droite, ses concepts, et pas seulement celui-là. Les Français de papier, avoir remis sur le terrain l'histoire des murs, qu'on veut construire aux frontières de l'Europe, bref, avoir repris tout le registre sémantique et idéologique de l'extrême droite, franchement, nous avions déjà deux candidats d'extrême droite, on n'avait pas besoin d'en prendre une troisième.
Valérie Pécresse qui a donc parlé de la charia, qui a indiqué que Marianne n'était pas une femme voilée, ce sont ses mots, tout en parlant du grand remplacement.
Cette phrase que j'ai prononcée, c'est une phrase que j'ai prononcée 10 fois, et tous les commentateurs qui la reprennent ont des mémoires de bigorneaux. J'ai dit 10 fois dans la primaire de la droite que je ne me résignais ni au grand remplacement ni au grand déclassement.
Non, vous aviez réfuté l'idée même du grand remplacement.
La phrase que j'ai prononcée, il faut la citer en entier, il ne faut pas citer juste le mot grand remplacement. La phrase c'est je ne me résigne ni au grand déclassement ni au grand remplacement. Ça veut dire je ne me résigne pas à justement aux théories d'Éric Zemmour et aux théories de l'extrême droite parce que je sais qu'une autre voie est possible. C'est ce que j'ai dit hier et tout le monde dit le contraire et me fait dire le contraire.
Y croire en dépit des ralliements cette semaine de 4 personnalités de droite à Emmanuel Macron, dont l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Éric Woerth, qui tacle la candidate.
Il y a beaucoup d'Emmanuel Macron, mais peut-être un peu sans le talent. Et puis il y a beaucoup également d'Éric Zemmour, mais sans la puissance.
Dernier impératif pour Valérie Pécresse, envoyer un signal au dernier président de son camp, très sévère avec elle en coulisses cette semaine.
Et il y a eu Nicolas Sarkozy. Son audace, sa force, sa vision. Il m'a donné cette chance unique d'être ministre de la République.
On est en ligne avec Madame Brigitte Doppler, qui est la directrice adjointe en charge des programmes de CARE Madagascar. Bienvenue à vous sur SBS French en Australie.
Merci, je vous remercie pour votre attention.
Et on parle du cyclone Batsirai qui a frappé l'île il y a quelques jours. Quelle est l'atmosphère qui règne sur le pays en ce moment?
Alors, c'est une atmosphère de réponse assez importante et très complexe, d'autant plus que nous sommes au début de la saison cyclonique et que nous avons à l'heure actuelle un autre dispositif qui va probablement frapper l'île d'ici 24 à 36 heures. quoique probablement de moins grande envergure, mais dans une zone juste au nord et qui va probablement encore plus mettre la pression sur tous les mécanismes d'aide, qu'ils soient gouvernementaux de la part de la communauté humanitaire et internationaux.
Parlons un petit peu des dégâts après le passage de Batsirai. Il y a beaucoup de morts et il y a beaucoup de blessés et beaucoup de gens ont dû quitter leurs maisons qui ont été détruites d'après ce que j'ai lu.
Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez, le cyclone a frappé sur la côte sud-est de Madagascar, qui est très particulière dans le sens où déjà c'est une zone qui est très vulnérable, très pauvre, avec peu d'infrastructures en dur. Des voies d'accès lorsqu'elles sont routières en mauvais état et souvent inexistantes. Hein. Les transports de biens se font très souvent par petites charrettes ou bien par un réseau fluvial lui-même très précaire. Donc oui, à ce stade, nous en sommes toujours encore, avec le gouvernement bien évidemment, en train d'essayer d'avoir plus d'évaluations. Si vous voulez, les premières évaluations ont été possibles uniquement par survol, et dans des zones très limitées autour des principales villes dans lesquelles il y avait déjà des équipes prépositionnées et bien sûr de par les autorités locales qui étaient prêtes, mais très difficile de sortir des localités les plus touchées. Donc de jour en jour, nous avons plus d'informations qui remontent. La mobilisation a été extrêmement importante de la part de tous, en particulier de la part du gouvernement. Et maintenant, nous avons par chance aussi l'appui des forces armées de la région, notamment françaises, avec l'appui en avion cargo et en personnel, protection civile, etc., pour rétablir le plus vite possible dans les principales grandes villes, Mananzar et Manakar, le réseau d'accès à l'eau potable qui a été détruit, en sachant qu'évidemment, toutes les sources d'eau traditionnelles, les puits, sont inondées et donc polluées. Donc oui, il y a un bilan qui n'est pas encore tout à fait finalisé, mais ce que le gouvernement affirme déjà et à quoi nous adhérons, c'est une zone essentiellement agricole, notamment la partie sud touchée, et qui était en train d'attendre la maturation des cultures pour pouvoir récolter, ce qui est malheureusement le drame à chaque fois qu'un cyclone tape cette zone-là. Et donc forcément, il va y avoir dans les prochains mois une crise alimentaire qu'il faut prévenir le plus vite, c'est-à-dire en nourrissant dès maintenant les populations les plus vulnérables et en relançant dès la descente des eaux une nouvelle campagne agricole à cycle court, de façon à éviter qu'une crise nutritionnelle s'installe au même titre que celle à laquelle nous faisons déjà face dans le grand sud de Madagascar.
Et donc, d'après les nouvelles que j'ai lues aussi, donc ce sont les cultures de riz, du girofle, du café et du poivre qui sont très endommagées. Et comment fait la population malgache pour se relever?
Alors, la population malgache, si vous voulez, est résiliente dans le sens où c'est des aléas qui ne sont pas des aléas inconnus, déjà. Il y avait quand même tout un système de préparation. Maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir une dépendance très importante dans les prochains mois à l'aide humanitaire. Alors là, je parle d'aide humanitaire immédiate, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire rétablissement très rapide d'accès à de l'eau potable, et à de l'aide alimentaire de façon à pouvoir pallier à ces pertes immédiates, notamment de riz, enfin de cultures vivrières. Hein. Les cultures de rente, ça c'est le girofle, la vanille, ça c'est évidemment, ça va impacter l'économie à la fois familiale, locale et régionale. Mais en termes de survie, là c'est vraiment accès à l'eau et à la nourriture rapidement. Donc ça, ce sont des circuits qui sont en train de se mettre en place. Il y a également une mobilisation importante, évidemment, en international pour faire appel aux bailleurs de fonds traditionnels, parce qu'il va falloir aussi acheter, faire rentrer de la nourriture supplémentaire dans le pays. aux côtés du gouvernement qui, lui, également fait la même chose pour pouvoir accélérer les approvisionnements, notamment en riz et en nourriture de base. Voilà, en gros, la situation. Mais ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est à la fois continuer à pouvoir rapidement avoir un bilan définitif, parce qu'il y a aussi, si vous voulez, parallèlement à ça, beaucoup d'infrastructures touchées telles que hôpitaux, centres de santé, école et évidemment approvisionnement en électricité. Donc il y a parallèlement beaucoup de choses qui sont en train de se faire pour établir très rapidement l'accès aux soins et les écoles provisoires, de façon à ce que les enfants puissent retourner assez rapidement à l'école, sachant que, comme dans beaucoup de pays, l'accès à l'éducation a été déjà fortement limité par la crise Covid, s'ajoutant à ça ce cyclone et peut-être d'autres crises climatiques dans les mois qui viennent, c'est aussi peut-être une à deux années scolaires qui sont à nouveau mises en péril.
Parlez-nous un petit peu de l'impact du Covid à Madagascar pendant ces deux dernières années.
L'impact du Covid, si vous voulez, bon, il a été... Évidemment, Madagascar est un pays où on a peu entendu de grosses cohortes, hein, c'est-à-dire qu'en termes de chiffres bruts, ce n'est pas très important. Mais malheureusement, en termes d'économie, ça a été dramatique, c'est-à-dire énormément de pertes d'emplois, notamment liées au secteur touristique, puisque le pays a été fermé pour des raisons de prévention très longtemps, et donc beaucoup de gens ont perdu leur métier et leur capacité de survie a été impactée. Et également, beaucoup d'entreprises liées au tourisme. Le tourisme est un secteur prépondérant à Madagascar. Donc ça a été vraiment un gros souci qui explique aussi, si vous voulez, la frilosité des autorités malgaches à réouvrir le pays trop vite. Ce qui a, je pense, vraiment permis, et ce que nous sommes convaincus, a permis de maintenir la transmission de la maladie à bas bruit, mais néanmoins a impacté l'économie. Comme dans beaucoup de pays, ça a été un dilemme. Aujourd'hui, il faut absolument que nous soyons très prudents aussi avec l'arrivée massive de supports et d'aides et évidemment d'experts, à ne pas trop non plus faire reprendre que cette maladie se retransmette. Donc, il y a aussi beaucoup d'énergie qui est donnée à maintenir un niveau de prévention important. Comme vous pouvez vous en douter, là, on travaille, les zones impactées sont dans des zones très, où il fait très chaud, avec des conditions d'accès à l'hygiène difficiles. Donc, ce sont aussi des moments où on a tendance à perdre un peu de vigilance. Donc, ça, c'est aussi un point d'ascension important pour tout le monde, et en particulier pour CARE Madagascar, qui déploie également des équipes, alors non pas expatriées, mais nos équipes d'urgence depuis la capitale et depuis d'autres régions vers les régions les plus touchées du Sud-Est.
Madame Doppler, merci d'être intervenue sur les ondes de SBS French en Australie. Merci de nous avoir éclairé sur la situation à Madagascar. Merci à vous.
Je vous remercie. Au revoir.
Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Belle journée, à très bientôt.
Commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.